présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Galien passe sa journée à son bureau à travailler. Pendant ce temps, Guillaume fait les magasins pour s'acheter quelques vêtements, chaussures et choses hygiéniques. Il s'achète aussi des livres, CD, va au coiffeur, va voir quelques films. Comme vous voyez, lui aussi est bien pris. Le soir, il se retrouve. Et Guillaume lui dit « J'ai profité à fond de Paris. » Le soir, ils sortent aussi, vont au restaurant, cinéma, théâtre, concert. Les jours passent. Un jour, Galien dit à Guillaume « Je pars à Toulon pour la journée. Nous verrons ce soir. » Que Galien est parti, Guillaume va sortir de son appartement pour aller dans le bureau de Galien.
Secrétaire, j'ai à prendre un papier que j'ai oublié dans le bureau. Bien, monsieur, je vais ouvrir. Elle appuie sur un bouton. Vous pouvez ouvrir. Il va vers la porte du bureau, il ouvre. Vite, dans le bureau. Va ouvrir le tiroir du bureau et cherche les papiers. Enfin, il trouve la feuille où est marqué les coordonnées de la personne qui a eu le corps de sa mère. Vite, il copie sur un autre papier. Ensuite, il remet la feuille en place dans le bureau, dans le tiroir du bureau, met la feuille qu'il a copiée dans sa poche et sort du bureau. La secrétaire appuie sur le bouton pour refermer la porte. Lui, ça retourne chez lui. Il arrive dans les appartements privés et va au salon pour réfléchir. Arrive au salon, il va s'asseoir dans un fauteuil. Sort la feuille qu'il a copiée. Pour la lire. Une fois qu'il l'a lue, il réfléchit. Il met la feuille dans sa poche. Et sort de l'appartement.
Dehors, il est un taxi. Un taxi s'arrête. Il entre dedans.
On va où ?
Montparnasse, 20 rue.
Bien, monsieur.
Arrivé à Montparnasse, la voiture s'est arrêtée à l'adresse indiquée. Guillaume paye et sort du taxi. La rue est une petite rue étroite, populaire, avec de vieux immeubles pas très hauts défraîchis. Au rez-de-chaussée des immeubles se trouvent des magasins, cafés, restaurants. On ne se croirait pas à Paris. Guillaume va au numéro 20. L'immeuble est comme les autres, sombre, sans âge, il a 4 étages. La porte de l'allée est en bois plein. Il y a un épicier avec encore la pub, le 7 vermeil des années 50-60. Le magasin est peu achalandé comme tous les magasins à cause de la situation en France. Guillaume regarde les étages. Certaines fenêtres ont des pots de fleurs, d'autres ont des étendages. Guillaume, après avoir hésité, entre dans la rue. La porte n'a pas d'intérieur. Elle s'ouvre comme ça. L'allée est un petit couloir sombre. Il se trouve sur un côté de mur les boîtes aux lettres dépareillées. Au fond, une montée d'escalier en pierre usée avec rampe en fer. Le sol de l'allée est en pierre aussi. Ça sent le renfermer. Il regarde les noms sur les boîtes aux lettres. Nicole Lapierre, 2e étage. Il prend les escaliers, intimidé. Il ne sait pas ce qu'il va lui dire. Arrivé au 2e étage, il y a 2 portes. Celle de droite et celle de Nicole Lapierre. Après avoir hésité, il sonne. Pas de réponse. Il sonne encore une fois. Rien. La porte d'à côté vient de s'ouvrir. Il se retourne et voit une vieille dame toute maigre, cheveux blancs en chignon, robe marine. Elle lui demande « Vous cherchez la jeune fille ?»« Oui, » dit-il en rougissant. Elle lui dit « Elle est au dispensaire, à faire des mouvements. Elle y va tous les matins. Elle a bien du courage avec ce qui lui est arrivé, la pauvre. Après l'accident, on a été obligé de lui mettre un autre cœur. Vous vous rendez compte ?» Il lui demande. « Et elle va bien ?»« Oui, elle est très courageuse. Vous êtes de sa famille ? De ses amis ?»« Non, pas vraiment, mais presque. »« Ah, vous êtes de la famille ?» Il lui dit. « Bon, eh bien, je m'en vais vous quitter. » Elle lui dit. « Revenez cet après-midi. Elle est toujours chez elle l'après-midi. »« Bien, merci, madame. » Et elle redescend. arrivé dehors, il souffle un peu et se dit « Je suis ridicule. Si elle avait été là, j'aurais pas su quoi lui dire. » Et s'éloigne. Puis appelle un taxi pour s'en retourner chez Galien, puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Se demande ce qu'il pourrait lui dire comme prétexte. J'en vais tout de même pas lui dire « Bonjour, vous avez le corps de ma mère, je viens voir comment il va. » Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Tourne vers chez Nicole.
Charmante jeune fille dans les 20 ans, habillée d'une robe bleue. Vous désirez ? Bonjour mademoiselle, je suis. Elle lui dit, sans doute le jeune homme qui est venu déjà ce matin. Oui, elle lui dit. C'est ma voisine qui me l'a dit. Et c'est pourquoi ? Eh bien, c'est pour une pétition qu'il faut faire, parce qu'il faut faire quelque chose avec tous ces chats qui traînent dans la rue, à moitié sauvages. Elle lui dit, entrez. Il entre. Elle ferme la porte. Venez. Il la suit. Petit couloir sombre. Elle ouvre une porte. Entrez. Il entre. C'est une pièce, un séjour, genre 1960, avec des meubles laqués, foncés, marron clair, et deux fauteuils en PVC beige. Un grand buffet. Malgré les deux fenêtres, c'est assez sombre. Elle lui dit, assessuyez-vous. Il va s'asseoir sur un des fauteuils. Dans un des fauteuils. Et elle, elle va s'asseoir sur l'autre fauteuil. Elle lui dit, je vous écoute. Il sort de son cartable en cuir un cahier, stylo, pour faire plus sérieux. Et lui dit, eh bien voilà, dans Paris, il y a des gens qui se font griffer par des chats à demi sauvages, et nous aimerions c'est que la municipalité fasse quelque chose. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr. Surtout que ces pauvres bêtes sont à moitié affamées et qu'elles sont malheureuses. La SPA devrait s'en occuper. Il lui dit, oui, mais la SPA n'a plus d'argent et les bêtes, il y en a tellement, malgré qu'on fait la chasse et que les gens en mangent. Il y a aussi un comité contre la chasse. Moi, je suis plutôt pour, et vous? Moi aussi, ça peut nourrir les pauvres gens. Elle lui dit, il faut signer quelque chose? Il lui dit, attendez, pas tout de suite, j'ai un questionnaire à vous demander. Elle lui dit, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça, vous faites ça tout le temps? Non, je suis étudiant, je fais ça pour me faire un peu de sous. Vous êtes étudiant en quoi? En histoire, et vous? Elle lui dit, moi je suis étudiante en chimie. Il lui demande, vous ne travaillez pas? Non, pas pour le moment, je suis en convalescence. Vous vivez seul? Oui, mais mes parents sont à Paris. Mais j'ai voulu vivre seul pour être plus libre. Et vous? Il lui dit, moi je vis seul, j'ai plus de famille. Ce ne doit pas être facile si vous ne travaillez pas pour vivre. Elle lui dit, non, bien sûr, mais si ça ne va vraiment pas, je fais appel à ma mère. Et puis, je touche de la sécurité sociale et de les assurances quelque chose. J'ai eu un grave accident de voiture. On était obligé, c'est de m'opérer d'urgence et de me mettre un autre corps. Ça s'est bien passé. Pour le moment, je n'ai pas de rejet. Il lui demande, vous avez beaucoup souffert? Non, pas vraiment. Oui, bien sûr, comme toutes les opérations, le réveil, la cicatrisation, mais pour ce qui est du corps, en lui-même, pas vraiment. J'ai tout de suite respiré à peu près normalement. Je sentais seulement un poids étrange dans ma poitrine, mais c'est tout. Je me suis remise très vite et on m'a fait faire des mouvements de la gymnastique pour que le corps puisse se remettre à travailler. J'en fais toujours d'ailleurs. Il lui dit, c'est le corps d'une autre personne? Oui, ce n'est pas un corps en plastique. Il se sent gêné et lui demande, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir le corps d'une autre personne? Elle soupire et lui dit, j'y pense bien sûr. Et j'ai l'impression d'avoir une autre personne en moi. Il lui demande, vous savez à qui a appartenu ce corps? Elle lui dit, non, on n'a pas voulu me le dire. Il paraît que ça ne se fait pas. Vous aimeriez le savoir? Des fois oui, des fois j'ai peur de le savoir. Il lui dit, je comprends. Et si un jour vous l'apprenez? Elle lui dit, je crois que j'en serai très émue, surtout si je retrouve la famille de
de la personne. C'est tout de même grâce à eux si je continue à vivre. J'en serai très reconnaissant. Guillaume se sent très ému. Il se dit, moi qui étais prêt à lui en vouloir, elle lui demande, voulez-vous boire quelque chose ? Oui, je veux bien. Elle lui dit, malheureusement, je n'ai pas d'alcool, ça m'est interdit. Du jus de fruits, pommes, oranges, pamplemousse et tomates. Il lui dit, tomates, moi aussi. Elle se lève, elle sort de la pièce pour aller chercher la boisson à la cuisine. Il regarde autour de lui et se dit qu'elle ne doit pas être bien riche. Elle revient avec une bouteille, deux verres et un plateau de piment. Elle va déposer tout ça sur un table basse. Elle demande poivre, sel, piment, poivre. Moi, je prendrai nature, régime. Et elle sert. Puis s'assoit. Elle lui dit, vous avez regardé mes meubles, ils ne sont pas à moi, c'est loué avec l'appartement. Une fois qu'il est bu, elle lui demande, où habitez-vous ? Il lui dit, deux rues plus loin, une vieille maison comme la vôtre. Elle pose son verre et lui dit, vous allez sans doute me faire signer cette pétition. Oui, bien sûr. Il sort son papier qu'il avait déjà préparé, le test, lui donne avec le stylo. Elle lui dit, je suis la première. Il lui dit, il faut bien un début. Elle signe. Elle lui rend le papier. Merci. Elle se lève et lui dit, je vais vous raccompagner. Il se lève aussi. Elle le mène vers la sortie. Sorte du séjour. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Non, pas du tout. Et puis, il faut que je vive une vie normale maintenant. Elle ouvre la porte. Et il sort. Une fois dehors, il est tout étourdi et se dit, c'est vraiment une charmante jeune fille et qui est belle. C'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis fou ? Une fille ? Et en plus, oh, mon Dieu, elle a le corps de ma mère. Non, je ne dois plus y penser à tout ça. Ce serait terrible. Ma mère. Il continue à marcher. Il a beau essayer de ne plus penser à la jeune fille, il la voit tout le temps. Il se dit que ce doit être à cause de sa mère. retour de Galia ne peut s'empêcher de penser à la jeune fille. Il y pense, mais avec du remords. Une fois qu'il a déposé sa valise dans sa chambre, il retourne vers Lilo. Il lui demande « Qu'est-ce que t'as fait durant cette journée ?» Guillaume lui dit « Rien de spécial, je me suis promené, voilà. »« Tu as fini tes achats ?»« Oui. » »« Si tu veux retourner au château, je t'accompagnerai vendredi après-midi. » Guillaume se sent bizarre et lui dit « Oui, ça me va. » Galia lui demande « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ?»« Si, ça va. » Galien lui dit, surtout ne crois pas que je te mets à la porte, mais tu sais qu'à Paris, ça, tu peux être en danger. C'est dangereux pour toi. Pourquoi ? Officiellement, tu es mort. Eh bien, fais-moi revivre. Et puis zut, ce n'est pas un crime que d'être encore en vie. J'y suis pour rien. Galien lui dit, je le sais que tu n'y es pour rien, mais tu as été enterré et on t'a déterré pour te faire revivre. Tu as qu'à leur expliquer. C'est impossible. Tu te rends compte de toutes les demandes que nous aurions. Il lui dit, eh bien, comme ça, ça donnera du travail. Galien lui dit, et de sacrées complications. Le père qui revient sans argent, avec sa femme, et tout. Guillaume lui dit, alors je serai toujours un paria. Galien lui dit, non, une personne qui est déjà morte, merci, je ne peux plus vivre, je ne suis plus rien. Galien le corsairé lui dit, mais non, ne dis pas ça, tu es quelqu'un, je suis là et je t'aime. Et si un jour tu n'étais plus là? Galien lui dit, tu auras tout le groupe Genetou et Pontois avec toi, la plus grosse fortune du monde. Guillaume lui dit, pour vivre dans un caveau? Galien lui dit, tu exagères un peu, un château avec des domestiques au milieu d'un parc magnifique. Même les pharaons n'ont pas eu autant avec leurs pyramides. Guillaume soupire et lui dit, oui, mais quel avenir? Un emmuré? Prisonnier? Galien lui dit, à l'époque où nous vivons, il y a des tas de gens qui aimeraient vivre comme toi, comme tu vis. Tu as le cafard? Parce que tu ne veux pas retourner là-bas? Eh bien, reste encore un peu, mais il va falloir te trouver un nom, une carte d'identité, parce que si tu te laisses prendre dans une rafle ou autre, Guillaume lui saute au cou et lui dit « Merci !» Le lendemain, avec l'aide de Danfort, Galien lui fait faire une carte d'identité. Avec les ordinateurs, la photo est faite en un rien de temps. Il la donne à Guillaume. Tiens, tu t'appelles Guillaume ? au Tergé et tu habites chez moi. Nous sommes cousins. Tiens, merci. Ça te gêne que je reste à Paris ? Non. J'ai surtout peur pour toi. Mais je suis heureux aussi, parce que ça nous permettra de nous voir tous les jours. Et une vie à deux s'organise. Pendant que Galien est à son bureau, Guillaume a toute la journée libre. Galien est triste de voir que Guillaume lui en veut et qu'il ne lui a même pas dit qu'il l'aimait et qu'il était heureux de vivre avec lui, chez lui. Non, Guillaume est à Paris juste pour son plaisir. Et son plaisir, c'est d'être à Paris. Même s'il pouvait vivre seul, il le ferait. Lui, Guillaume, se sent triste et se dit qu'il n'a pas demandé tout ça pour Galien, qu'il aime, mais pour Nicole. Il se dit qu'il est un salaud, mais qu'il ne peut rien. L'amour rend égoïste. L'après-midi, il va souvent dans le quartier de Nicole. Il se sent attiré par elle. Et s'il n'y va pas, il est malheureux. Un jour, en se promenant dans son quartier, il se dit « Si je suis attiré par elle, c'est peut-être à cause du corps de ma mère. Ce n'est pas elle que je cherche, mais ma mère. » Mais alors, pourquoi ce désir de la posséder ? Il est obsédé par ces questions. A-t-il le droit de désirer Nicole ? Étant donné qu'elle a le corps de sa mère. Après toutes ces journées à penser à cet amour contrarié, il va retrouver Galien au salon.
Comme tous les soirs.
Galien le trouve dans ses pensées. Qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ? Il y a quelque chose. Tu passes des heures à ne rien dire, comme si tu étais seul. Qu'est-ce qui se passe ? Rien, absolument rien. Galien soupire et lui dit « Je me demande ce que je fais avec quelqu'un qui n'a rien à me dire. Si tu vivais seul à Paris. » Guillaume lui dit « C'est vrai ?» Galien a le souffle coupé et a mal. Guillaume n'a pas compris que les dernières phrases de Galien et son « c'est vrai » sont venues comme ça, d'un coup, sans réfléchir. Galien se remet et cache sa peine. Il lui dit « Oui, si tu veux, je te trouve un petit studio. » Guillaume lui dit « Merci. Oui, j'aimerais bien un petit studio à Montparnasse. » Galien lui dit « Bien, pourquoi pas, s'il y a quelque chose là-bas. » Il se demande « Pourquoi Montparnasse ?» Mais il voit qu'il avait déjà cette idée en tête. Cela lui fait très mal. Guillaume est tellement heureux qu'il ne voit pas la peine de son ami. lendemain, Galien demande à Danforth de chercher un studio à Montparnasse pour Guillaume. Danforth lui dit « C'est un peu dangereux qu'il vive seul. » Galien lui dit « Puisqu'il le veut, tant pis pour lui. » Danforth lui demande « Et pourquoi Montparnasse ?»«
Je ne sais pas, une lubie. »
Danforth lui dit « Je vous permettez, je vais le faire surveiller. »
Galien lui dit « L'élu vous le permet. De toute façon, vous êtes chargé de ma sécurité et de ce que j'aime. »
Danforth lui dit « Même malgré eux, mais ce nom Montparnasse me dit quelque chose. »
Galien lui dit « Il n'a même pas pensé. Il oublie très vite ce qu'on lui offre. »
Et puis, il aurait pu reprendre son ancien appartement. C'était tout près, en sécurité.
Galien lui dit « Il n'a même pas pensé. Il oublie très vite ce qu'on lui offre. »
Danforth lui dit « Quant à moi, je préfère Philippe. Il ne nous a jamais créé d'ennui, lui. »
Galien lui dit « Vous avez raison. Philippe est plus calme, sérieux, gentil. Mais Guillaume, sans aide, c'est quoi ? Surveillez-le et n'hésitez pas à intervenir pour l'aider. »
Danforth téléphone aux agences immobilières, se déplace pour voir un studio pour Guillaume. Enfin, il a trouvé vers la gare Montparnasse, dans une rue à côté d'un square et d'une église. Danforth prévient Galien et donne l'adresse pour que Guillaume vienne visiter et dire ce qu'il en pense. Il attend chez le régisseur, il donne le nom de la rue et de la régie. Galien prévient Guillaume, qui court à son rendez-vous sans le remercier. Galien a de plus en plus mal.
Guillaume arrive à la régie. En plus de Danforth, se trouve un petit homme à moustache, costume gris foncé.
Le monsieur de la régie les mène au studio. La rue est une petite rue comme celle de Nicole, mais en plus, il y a une église et un square, comme je vous l'ai déjà dit. Ils vont dans un vieil immeuble, sans âme, ni âge, mais très défraîchi, de 5 étages. L'accès est comme celle de Nicole.
Le petit monsieur leur dit « C'est au 3e étage, sans ascenseur. »
Ils montent les étages. Le petit monsieur leur dit « L'immeuble est très tranquille. Il y a surtout des personnes seules. »
Au 3e, il ouvre la porte de gauche. Entrez.
Petit couloir, salle commune avec coin cuisine, chambre, salle de bain. C'est propre.
Le propriétaire, avant de louer, a fait peindre et les sanitaires sont neufs. C'est par mois, plus des charges. Est-ce que cela peut aller ?
Guillaume lui dit, oui.
Bien, allons dans notre bureau signer le bail.
Et ils sont retournés à la régie, ils ont signé le bail. Danforth a fait
le chèque. Guillaume a dit, merci. Danforth se dit, enfin merci. J'ai l'impression d'être le père de deux enfants turbulents. Lorsque Galien revient chez lui, Guillaume lui dit « J'ai trouvé un appartement. » Galien lui dit « Je le sais. » L'enfant me l'a dit « Tu vas pouvoir y aller. » Guillaume lui dit « Oui, mais il y a... J'ai pas d'argent. » Galien lui dit « J'y ai pensé. Tu recevras tous les mois une somme. Merci, tu es chic. Je vais pouvoir m'acheter des meubles. » « Oui, bien sûr. Mais fais pas trop de frais. » Je tâcherai, je suis si heureux. Galien se dit, il ne pense même pas à moi. Ils ne couchent plus ensemble depuis que Guillaume doit déménager. Le lendemain, Guillaume va faire les magasins pour se meubler. Il se décide de prendre des meubles simples, à bas prix. Simples et modernes. De la vaisselle et tout ce qu'il faut pour se meubler. Deux jours plus tard, une fois que tout est en place, il ne reste plus qu'à dire au revoir à Galien. Lorsque Galien rentre, il lui dit, voilà, je peux vivre chez moi, tout est emménagé. Galien lui demande, tu me quittes quand ? Tout de suite. Galien lui dit, bon, eh ben au revoir. Guillaume lui demande, et pour l'argent ? Galien en est tout rouge de surprise. Voilà ce qu'il lui dit en guise d'adieu. Il lui dit, ton argent ? Ah oui, eh bien c'est Danforth. Il l'enverra par courrier, en chèque. Guillaume lui dit, il me faut du liquide. Un homme ne peut pas avoir de chèque. Ça ne se fait pas. C'est pas bien. Galien lui dit, pour toi est bien mort et joue bien à la bourse. Guillaume lui dit, oui, mais pour la bourse, on accepte n'importe qui, surtout les grands escrocs. Galien ne peut s'empêcher de sourire à ce dialogue de surréaliste. Mais très vite, sa tristesse lui revient. Guillaume, son Guillaume, qui le traite comme un moins que rien, lui, comme une cocotte, demande son dû, comme s'il n'y avait pas eu d'amour entre eux. Il lui dit, « Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour l'argent ?» De colère, Gallien a envie de lui dire, « Eh bien, tu n'as qu'à travailler. » Mais il lui dit, « L'enfant te portera ton argent. » Merci. Bon, eh bien, je m'en vais. Gallien est très triste. Il part sans lui dire qu'ils se reverront. Il lui dit, tu pars comme ça, sans me dire si nous verrons ou si nous reverrons plus. Guillaume fait, ben, Gallien pique une colère et lui dit, j'en ai marre. Je demande ce que je fais ici. Je passe mon temps à lire des dossiers, signer des chèques. Je suis enfermé toute la semaine dans mon bureau. Il faut que je pense au bien-être de celui-ci, de celui-là. Que je dise oui à tout le monde. Je dois rendre heureux tout le monde. Et moi alors? Personne ne pense à moi. Ça fait des mois et des mois que je suis prisonnier dans ce travail, de ce truc. Qu'est-ce que je deviens moi? Qu'est-ce que je suis? Je n'ai plus de vie privée. Personne ne m'aime. Tiens, qui aurait l'idée de mettre mon corps ou mon cerveau dans un nouveau corps pour éviter que je meure complètement? Non. Il faut que je fasse des tas de choses pour les autres, mais je ne suis rien. Je ne suis que l'homme le plus riche du monde qui ne sert qu'à faire des chèques, de l'argent, de l'argent, de l'argent, toujours de l'argent, pour le plaisir des autres et moi. J'aurais mieux fait de rester à Lyon, dans ma vie bien tranquille. D'ailleurs, moi aussi, j'ai qu'à m'en aller. Personne ne s'en apercerait. Je pourrais tout aussi bien être remplacé par une photographie au-dessus de mon bureau. Guillaume n'a pas osé bouger. Puis Gallien reprend et lui dit, pardonne-moi, c'est un peu de fatigue. Tu peux t'en aller. Alors Guillaume s'approche de lui, le prend dans ses bras, le plaque contre lui. Il lui dit, je t'aimerai toujours. Je t'ai pas, mais c'est pas pour toujours. Non, parce que j'ai des choses à faire. Mais je reviendrai. C'est promis. Il l'embrasse. Et le quitte.
Gallien se retrouve seul. Il a envie d'une voix d'amis. Alors, il va au salon. Il prend le téléphone et fait le numéro de Philippe.
Allô ?
Bonjour madame, je suis Gallien. Oui, je vais bien. Et vous? J'aimerais parler à Philippe, s'il vous plaît. Bien. Allô Philippe, c'est moi. Tu vas bien? Non, je te téléphone comme ça, parce que j'ai envie de te parler un peu. Alors, que deviens-tu? Oui, les cours? Des études? À part ça, rien? Bon, moi ça va. Ça va. Oui, ça va. Bon, eh bien, un séjour. Au revoir. Et il raccroche. Un appel pour rien, pour dire des banalités. Ça ne l'a même pas réchauffé le corps.
Pendant ce temps, Guillaume va ouvrir la porte de son appartement.
Ça sent le neuf, peinture, meubles neufs. J'entends le bruit du réfrigérateur dans la cuisine. Pour que tout soit bien rangé, ça fait appartement vide, trop neuf. Il quitte sa veste et va la mettre dans la penderie qui se trouve dans le couloir. Au salon. Il va s'asseoir sur un fauteuil en cuir beige.
Il ne sait que faire. Il ne se sent pas à l'aise dans cet appartement. C'est pas comme au château ou chez Galia. Ici, c'est soi-disant chez lui. Bien sûr, il a déjà eu un chez lui, mais c'était il y avait déjà fort longtemps, comme on dit. C'est-à-dire, pour lui, avant sa mort. Il ne s'en souvient plus. Comme avant Galia, il avait déjà eu une copine qui lui faisait mal. Il se dit... Il va falloir que je m'habitue. Il soupire et décide d'aller se coucher dans sa chambre.
Il se lève, sort du salon, et va dans sa chambre pour se déshabiller. Et va dans la salle de bain.
Il est 22h, j'espère que la douche n'a pas fait trop de bruit.
Il s'essuie. Il sort de la salle de bain pour aller dans sa chambre et se coucher.